Paso doble.
Paso doble.
Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Emmanuel Guibert.
Bonjour Tophie Kakem.
Votre œuvre autour de la vie d'Alan Ingram Cobb continue. Un nouvel ouvrage vient de sortir, Martha et Alan. Toujours bien sûr à l'association. Et cette fois, il s'agit des souvenirs de son premier amour, quand il avait 5 ans, dans la Californie rurale des années 30. Alan Ingram Cobb. Il avait déjà 70 ans quand vous l'avez rencontré il y a plus de 20 ans à l'île de Ré, où il vivait. Mais à quel moment, Emmanuel Guibert, vous est venue l'idée d'enregistrer ses mémoires et d'en faire une œuvre, aujourd'hui constituée de 5 romans graphiques, les 3 tomes de la guerre d'Alan, et puis il y a eu l'enfance d'Alan il y a 2 ans, et puis enfin, Martha et Alan qui vient de sortir. À quel moment ?
Ah ben on n'a pas perdu de temps. Comme disait Alan, on n'a pas jeté nos heures. Et dès le début, comme si on savait qu'on n'aurait pas beaucoup de temps, parce qu'on a eu 5 ans pour être amis, on s'est mis au boulot. Et ça a consisté en effet à enregistrer ses souvenirs très rapidement. Je me souviens que je l'ai rencontré un mois de juin. On a dû passer une dizaine de jours ensemble à faire connaissance. Et je suis revenu en septembre pour les premiers enregistrements. Et ensuite...
C'est entre-temps où vous êtes...
Non,
c'était... Dit que peut-être qu'avec la vie d'Alan, je vais pouvoir développer une histoire en roman graphique, en bande dessinée.
Non, c'était d'emblée.
D'emblée.
Ouais.
C'est-à-dire dans l'heure qui a suivi votre rencontre.
Les détails, évidemment, je pourrais les raconter, mais ça nous prendrait un peu trop de temps. Mais le fait est que assez rapidement, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être, on s'était vu 3 fois dans notre vie. On s'est retrouvés sur une plage tous les deux, on s'est baigné, et puis en sortant de l'eau, on a fait ce qu'on fait dans ces cas-là pour sécher, c'est-à-dire des allées et venues le long des vagues. Et il en a profité pour me raconter quelques épisodes de sa guerre. Et moi, j'écoutais en bouillant intérieurement, parce que j'étais très intéressé par ce que j'entendais. J'avais l'habitude depuis que j'étais adolescent, quand une conversation me plaisait pendant la journée, de rentrer chez moi et d'essayer de la garder chaude dans la tête pour pouvoir la recopier, faire une sorte de procès-verbal après coup de la conversation que j'avais eue. Et quand je l'ai entendu lui, je me suis rendu compte que ce serait pas possible, parce que ses conversations étaient trop singulières, sa façon de s'exprimer était trop particulière, pour que je risque de la modifier ou de la détériorer un tant soit peu en mettant un mot pour un autre. Il me fallait rigoureusement ce qu'il avait dit. Et pour ça, il y avait le magnétophone. Donc je lui ai dit ce jour-là, sur cette plage, solennellement, « Cher Alan, voulez-vous, puisque je le vous voyais encore à l'époque, voulez-vous faire des bouquins avec moi ?» Et il a dit oui, très simplement, et on a mis le processus en marche instantanément. Quelques jours après, j'étais là avec mon magnétophone et on s'y est mis.
Voilà, et il savait que vous alliez faire donc cette œuvre.
Il ne savait pas. D'ailleurs, il n'y croyait pas au début. Ouais. La seule chose qu'il s'est dite, c'est « ce gars est là, il m'écoute ». Moi, je suis plutôt relativement solitaire et là, j'ai affaire à quelqu'un, apparemment, je sais pas, j'étais selon son goût, il m'aimait bien. Donc, il s'est dit, il va venir passer du temps avec moi, pour ça, il faut qu'on ait un alibi. Et peut-être que le fait de m'enregistrer fera que je vais pas juste le voir 2 jours dans ma vie, mais qu'éventuellement, il reviendra. Je pense qu'il a dû se dire ça au début, il a dû se dire, c'est une petite construction qui démarre et qui nous permettra d'être côte à côte.
Et après la mort d'Alan Ingram Cobb en 1999, avec l'ami Christian Rosset, vous retournez sur les lieux où il a vécu et où il vous recevait pour partager ses souvenirs. C'était pour un atelier de la création réalisé par Gilles Davidas et diffusé le 29 novembre 2011. Et sur place, Emmanuel Guibert, vous avez trouvé les mots les plus justes et pour décrire Alan Ingram Cobb et pour nous faire écouter, entendre sa voix. Extrait.
Alan, c'était un Américain pour les Européens et c'était devenu un Européen pour les Américains. Comme beaucoup d'exilés, il n'était pas vraiment, plus vraiment d'un bord et pas vraiment de l'autre. Et il avait d'Américain de prime abord pour les gens de l'île, sa pointe d'accent, ses blue jeans un peu tire-bouchonnants, ses grosses canadiennes l'hiver, ses chemises à carreaux.
Va à droite, parce que je crois que c'est tout droit.
Et puis il avait, j'imagine, d'Européens pour les Américains qui venaient le voir, toutes les habitudes de vie, toute la culture qui s'était forgée en vivant ici depuis l'âge de 22 ans, sans discontinuer.
Nous prenions souvent les petites routes. C'était très joli. Je voyais pour la première fois des paysages typiquement européens. Et les petits villages gris et tristes, mais quelquefois assez jolis. On voyait qu'ils pourraient être jolis s'ils arrivaient à se remettre de leurs expériences de la guerre. Et c'était un peu comme un livre d'histoire pour les enfants, pour moi. Nous avons un mot en anglais qui est « quaint ». Et tout était quaint et joli pour l'Américain que j'étais. Les routes étaient petites.
Donc en fait, ce 16 juin 1994, j'étais avec mon père. Et on montait tous les deux cette rue. Et c'est en arrivant là que je l'ai aperçu pour la première fois. Il était en train de scier du bois devant sa porte. Il avait posé une chèvre. Et puis, il sciait son bois. Et il était torse nu, c'était un petit homme qui dégageait un peu une impression à la Picasso, espèce de torse assez costaud comme ça, puis des poils d'artichaut là sur la poitrine. Et je me suis approché de lui et je lui ai dit, enfin à vrai dire, je me suis approché de lui pour lui poser une question sur mon chemin, mais au fond, si je suis allé le voir, c'est parce que j'avais envie de passer un peu de temps dans cette maison et peut-être d'en savoir un peu plus. Et donc je lui ai dit, pardon monsieur, la rue de la République, ou la place de la République, et on a discuté un bon quart d'heure en fait.
Emmanuel Guibert, il représente un témoin d'une période que vous auriez aimé vivre, cet Américain, Alan Ingram Cope, où au-delà de ses souvenirs et du fait qu'il était ici en France, qu'il a traversé le XXe siècle avec ses guerres, c'était anecdotique, que c'était plus le personnage qui vous intéressait.
Je vous ai vu sourire en l'écoutant, j'ai l'impression que sa voix dit tout. Enfin, mm-hmm. Quand on rencontre quelqu'un qui a une voix comme ça, on s'en va pas, on reste. C'est beau à écouter. Il n'était pas en train de lire là, il était en train de me parler. Et c'est de la littérature, vous avez remarqué, c'est les mots viennent, ils sont imagés, on est avec lui, on voit ce qu'il raconte. Et on n'a pas envie de se carapater, on a envie de rester aussi longtemps que possible. Si la vie m'avait fait la grâce de me le conserver jusqu'ici, je serais toujours à côté de lui. 5 ans, ça n'a pas été énorme, enfin ça a été quand même pas mal pour accumuler beaucoup d'aperçus sur son existence, dit toujours sur ce ton, c'est-à-dire avec quelque chose d'à la fois poétique, pédagogique, naturel, simple... Encore une fois, imagé, j'insiste là-dessus, parce que les récits imagés, comme leur nom l'indique, font naître des images en vous. Et si on est dessinateur, évidemment, ça nous titille. Quand on voit quelque chose dans sa tête, on a envie de le mettre sur le papier. Et donc, toutes ces qualités faisaient de sa compagnie une compagnie très précieuse. S'il n'avait pas fait la guerre, s'il était né 3 ans plus tard, par exemple, parce qu'il suffit de ça pour ne pas faire une guerre, parfois. Lui, il a eu 18 ans en 43. S'il était né en 1929, il les aurait eu après-guerre, ses 18 ans. Il n'aurait pas été appelé. Je pense que si néanmoins il avait été plus ou moins le même homme, j'aurais fait des livres aussi avec lui. D'ailleurs, on a pu croire au début de mon travail que je faisais un récit de guerre. Le fait est que depuis 2 livres maintenant, on se rend compte que je fais quelque chose d'un peu plus large, qui est une véritable biographie, enfin le récit de vie de quelqu'un, quoi. Et je m'intéresse tout autant à ses faits de guerre, si j'ose dire, qu'aux rencontres qu'il a pu faire dans une cour de récré ou à quelque autre épisode de son enfance ou de son grand âge.
Mais le fait qu'il soit américain, donc étranger, est-ce que son regard un peu décalé vous a attiré, vous a intéressé? Parce que vous dites, peut-être que je vais avoir des discussions que je ne pourrais pas avoir avec ma propre famille qui a connu la guerre ou pas. Avec lui, il y a une certaine liberté, une certaine distanciation. Donc il pourra peut-être me parler autrement de cette histoire, autrement de ce siècle, autrement de ce pays, la France.
Ah oui, j'étais plein de tous ces espoirs-là d'emblée parce que les toutes premières conversations m'avaient déjà indiqué qu'il en serait ainsi, que ça allait être comme ça. Et c'est pour ça que j'étais très confiant, plus que lui ne l'était sans doute au départ. Lui au début, il m'a fait à sa façon, parce que c'était quelqu'un de descendance un peu quaker, assez rigoureux, Donc, mais il m'a fait quand même une relative danse du ventre pour me garder. Et j'étais très attendri de le voir faire des efforts pour conquérir mon amitié, qui lui était déjà acquise à l'époque. Il le savait pas, parce que, encore une fois, comme c'était pas un tendre, je lui disais pas tous les quatre matins. Ouais. Mais moi, je savais que je resterais avec lui jusqu'au bout, et c'est ce que j'ai fait.
Alors là, dans le dernier livre, vous racontez son enfance, donc l'histoire de son premier amour, celle que vous dessinez dans le dernier volume, donc, qui a pour titre Martha et Alan, donc on devine que c'est Martha, son premier amour. Alors, est-ce un récit structuré d'Alan Ingram Cobb ou c'est par bribes de discussions enregistrées que vous avez reconstitué cette histoire d'amour et d'enfance donc?
Non, je pense que globalement il me l'a raconté à peu près tel que vous la lisez. C'est pas un épisode très long, néanmoins c'est un épisode transversal dans sa vie. Ça commence quand il est petit et ça s'achève quand ils sont âgés, tous les deux, Martha et lui. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu le caser dans les grandes tranches biographiques que j'ai découpées dans son existence, l'enfance, la guerre, etc. Parce que ça traverse tout ça. Et ça a nécessité donc un livre à part, quand bien même c'est une petite anecdote, elle est très ténue. Mais d'abord moi je pense que ça vaut le coup de se raconter des choses aussi importantes que la première fois où notre cœur a battu fort dans une cour de récréation. C'est absolument fondateur, cardinal pour nous. Et puis, s'il se trouve qu'en plus, il en advient quelque chose dans l'existence, en l'occurrence pas un mariage, mais d'une certaine manière des retrouvailles, des décennies après, ça finit par constituer...
Enfin, retrouvailles avec des guillemets. Hein.
Avec des guillemets, mais retrouvailles tout de même. On sait bien, dans l'existence, il y a une sorte de rupture possible qui est la mort avant la mort, c'est-à-dire que tout d'un coup, on n'entend plus parler de quelqu'un et on le reverra plus. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui réapparaissent au coin d'une rue ou à la faveur d'une lettre, et à ce moment-là, quelque chose peut reprendre, et c'est ce qui leur est arrivé.
Et pour travailler, vous aviez juste ce témoignage enregistré d'Alan Ingram Cobb, où il vous a donné autre chose, des photos, des lettres, des documents?
Il m'a très gentiment... très paternellement légué avant de disparaître, c'est quelques albums de photographie. Oui, j'en ai deux en l'occurrence, dans lesquels j'ai pu piocher quelques aspects de sa Californie des années 30. J'ai voyagé là-bas, donc j'ai fait pas mal de recherches. C'est un livre qui m'a pris une vingtaine d'années de gamberge, donc j'ai eu le temps au cours de ces 20 ans, même si j'étais pas en train à proprement parler de travailler dessus, de glaner à droite à gauche des choses dont je savais qu'à un moment ou un autre, elles pourraient s'insérer dans ce récit. Et quand on a 20 ans, on peut prendre toutes sortes de détails. C'est ça qui est amusant. Dans le fait de se donner du temps, c'est que on aura la première année l'amorce d'une architecture, la deuxième année quelques bagnoles qui iront bien dans le décor, la troisième année on trouvera un arbre, la quatrième année ceci, cela. Et ça finit par constituer un corpus qu'ensuite on réinjecte dans le livre. Quand le panier est plein, quoi.
Et contrairement aux trois tomes qui racontaient la guerre d'Alan et qui étaient en noir et blanc, ici tout est en couleur. Emmanuel Guibert, c'est un roman graphique, plus qu'une BD d'ailleurs, les cases disparaissent, il y a des dessins pleines pages, quand ce n'est pas des pleines doubles pages, quelques lignes pour la narration, très peu de dialogues, c'est une suite de petits tableaux, vous l'avez voulu ainsi?
Oui, si j'avais traité ça d'une manière traditionnelle, je pense qu'en bande dessinée ça aurait rempli l'équivalent peut-être d'une dizaine de pages. Donc il aurait fallu l'insérer dans un autre ensemble, alors que je voulais que cette histoire ait sa maison à elle, son livre. Donc c'est pour cette raison que je l'ai dilaté d'une certaine manière, en laissant plus de place aux images, et en laissant aussi, je pense, la capacité à certains mots de résonner dans le seul dans une double page, par exemple.
Ouais.
Il est évident que quand on prend un mot et qu'on le met dans une double page tout seul, qui est un privilège qui est réservé soit à la bande dessinée, soit à la poésie, généralement, on lui donne un relief, je pense, qu'il n'a pas s'il est une patte de mouche parmi d'autres dans une page de roman. Donc, oui, toutes ces choses-là, ça plaidait pour le fait d'en faire un livre un peu à part, oui.
Est-ce que votre travail a changé depuis la mort d'Alan Ingram Cobb?
Oui, dans la mesure où je peux plus décrocher mon téléphone pour lui demander tel ou tel détail sur ce qu'il a vécu. Ça, c'est évidemment quelque chose qui continue à me cuire aujourd'hui. J'aimerais bien lui dire est-ce qu'il pleuvait ce jour-là. Mais je ne sais pas.
Il voyait les dessins avant la publication?
Ah oui, tout ce qu'il a pu voir, c'est-à-dire les trois quarts du premier volume, évidemment, il l'a vu. C'était même très important. Vous imaginez un homme malade et qui est au seuil de la mort, s'il voit arriver des planches sur lesquelles il a 20 ans et il est en train de découvrir l'existence. Ça dure ce que ça dure. Parfois, ça n'excédait pas un quart d'heure, mais pendant un quart d'heure, quand il voyait ça, il se regonflait.
Eh ben, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans Martha et Alan, c'est qu'on voit bien l'absence d'Alan. Il y a quelque chose de très nostalgique dans votre façon de raconter cet amour. Il y a sans doute beaucoup d'influence, vous qui avez beaucoup de culture, Emmanuel Guibert. Moi, j'ai retrouvé un peu d'Edward Hopper dans vos dessins. Il y a aussi, à la fin, tout à la fin, un côté Caspar David Friedrich, pour le peintre du sublime du XVIIIe siècle. Est-ce que vous êtes d'accord pour ces deux références? Est-ce qu'il y a eu d'autres références qui vous ont accompagné?
Alors là, vous m'attribuez des choses évidemment à la fois magnifiques et écrasantes. Il est évident qu'on est fabriqué de toutes les peintures et de tous les paysages qu'on a vus. La vie imite l'art, comme disait Oscar Wilde. Donc, quand on regarde un paysage, on voit des peintures qu'on a vues dans le passé. Quand on voit des peintures, on y met des paysages qu'on a vus dans le passé. Moi, je suis évidemment fabriqué de tout ça. Je me retiens pas de temps en temps de mettre des choses qui, en effet, peuvent s'apparenter un peu à l'hommage ou au clin d'œil. Là, dans ce livre-là, je pense que j'ai surtout essayé de le mettre. Alors, soit les lieux que je représente sont vrais. Ces endroits que j'ai retrouvés. Donc, la maison de Martha, c'est la maison de Martha. J'avais l'adresse, donc j'ai pu la représenter telle qu'elle est. Soit je l'ai... La plage sur laquelle on voit Alan se promener à la fin, c'est justement cette plage sur laquelle on s'est baigné, lui et moi. C'est le long de ces vagues.
C'est sublime, on peut le dire.
Qui m'a raconté ses premières histoires. Donc, vous imaginez l'émotion que j'ai eue à le représenter là. Parce qu'il est évident que le faire retourner sur une plage où on a été tellement heureux tous les deux, c'est un privilège limité du dessin, mais quand même, ça existe.
Autre grande émotion en lisant justement Martha et Alan, c'est cette église de Pasadena où se déroulent plusieurs scènes, les fêtes religieuses. Alors ce foisonnement de détails, cette précision du trait avec toutes les couleurs du jour, hein, il y a même des scènes de nuit. Est-ce le fruit d'un peu de documentation et de beaucoup d'imagination, ou vous êtes allé sur place et vous avez retrouvé cette église?
J'ai retrouvé cette église, sauf qu'elle n'était plus là. Elle a été démolie en 1974 par un tremblement de terre.
Imaginé.
Donc, je me suis bien documenté. J'ai trouvé diverses sources iconographiques pour pouvoir la représenter sous les angles qui m'intéressaient. J'ai brodé un peu pour certains aspects de l'intérieur. Enfin, globalement, c'est aussi assez fidèle à ce qu'était cette église dans les années 30. Et ce qui m'importe, c'est d'abord de me donner à moi-même l'impression de marcher un peu sur ses traces.
Gently, sweet Afton, among thy green blades, la la la, da, la la, la 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 la. Thou green-crested lapwing, thy screaming forbear, I charge thee disturb not my slumbering fair.
Emmanuel Guibert et les souvenirs d'Alan Ingram Cobb, son dernier livre paru, Martha et Alan, ou l'histoire du premier amour d'Alan, comment il est advenu, ce qu'il est devenu. Ils ont 5 ans au début du livre, ils se perdent de vue très vite, mais chacun a gardé le souvenir de cet amour, de cette histoire. C'est ce qu'on apprendra à la fin du livre. Est-ce qu'il y aura d'autres livres autour d'Alan, Emmanuel Guibert?
Si tout va bien, nombreux, oui. Je dois consacrer un bouquin à son adolescence, qui sera un gros livre, puisqu'il va combler le vide qui existe à l'heure actuelle entre son enfance, qui s'achève à 11 ans, et la guerre qui commence à 18. Donc il y a 7 ans qui restent à raconter. Et puis ensuite, si tout va bien, j'ouvrirai un second cycle de récits sur lui, qui consistera à prendre la parole et à dire l'homme que j'ai rencontré, puisque pour l'instant, je suis encore dans une période de service, si j'ose dire, c'est-à-dire que je me suis mis au service de son récit, et de la nécessité où je suis de mettre à l'abri ces choses précieuses qu'il m'a dites.
Emmanuel Guibert, merci pour le dessin que vous nous laissez, qu'on peut retrouver en passant par franceculture.fr à la page de l'émission Pas au Noble. Et puis merci de m'avoir laissé ce livre. Pourquoi vous me le conseillez, Emmanuel Guibert?
Alors, tout fait que je vous ai apporté L'homme qui a sauvé Londres de Georges Martelly, qui raconte une histoire absolument exceptionnelle et totalement méconnue en France, celle d'un homme qui a tenu entre ses mains une partie du sort de la Seconde Guerre mondiale. C'est un de nos résistants les plus courageux, les plus intelligents, les plus pugnaces. Il s'appelait Michel Ollard. Il a eu un parcours, pour le comprendre, ce parcours, il faut lire ce livre, parce que ce parcours est tellement aventureux, riche de tellement d'anecdotes qu'il faut donc lire les quelques 300 pages que compte ce livre pour être pénétré de l'admiration qui m'a saisi moi quand j'ai lu ce bouquin, qui a vraiment changé ma vie. J'ai plus une rage de dents maintenant sans penser à Michel Hollard. Chaque fois que j'ai un problème, je pense à lui. C'est le genre de personnage dont on a besoin dans notre existence parce qu'il nous aide à nous tenir droit. Donc je conseille vraiment à tout le monde, très ardemment, L'homme qui a sauvé Londres, Michel Hollard, le héros méconnu, de Georges Martelly, c'est aux éditions des Arènes. Ça vient juste de sortir.
Bonne journée, merci d'être venu.